Combien comptez-vous, dit-il, de l'étoile de la canicule à la grande étoile des Gémeaux ? Ils répondirent tous à la fois. 32,5 degrés. Combien comptez-vous d'ici à la Lune ? 60 demi-diamètres de la Terre en nombre rond. Combien pèse votre air ? Il croyait les attraper, mais tous lui dirent que l'air pèse environ 900 fois moins qu'un pareil volume de l'eau la plus légère, et 19 000 fois moins que l'or de Ducas. Le petit nain de Saturne, étonné de leur réponse, fut tenté de prendre pour des sorciers ces mêmes gens auxquels il avait refusé une âme un quart d'heure auparavant. Enfin, Micromégas leur dit « Puisque vous savez si bien ce qui est hors de vous, sans doute vous savez encore mieux ce qui est en dedans. Dites-moi ce que c'est que votre âme et comment vous formez vos idées. » Les philosophes parlèrent tous à la fois comme auparavant, mais ils furent tous de différents avis. Le plus vieux citait Aristote. L'autre prononçait le nom de Descartes, celui-ci de Malebranche, cet autre de Leibniz, cet autre de Locke. Un vieux péripatéticien dit tout haut avec confiance. « L'âme est une entéléchie, et une raison par qui elle a la puissance d'être ce qu'elle est. C'est ce que déclare expressément Aristote, page 633 de l'édition du Louvre. « Et toi, mon ami, dit-il à un Leibnizien qui était là, qu'est-ce que ton âme ?» C'est, répondit le Leibnizien, une aiguille qui montre les heures pendant que mon corps carillonne, ou bien, si vous voulez, c'est elle qui carillonne pendant que mon corps montre l'heure, ou bien mon âme est le miroir de l'univers, et mon corps est la bordure du miroir. Cela est clair. Un petit partisan de Locke était là tout auprès, et quand on lui eut enfin adressé la parole, « Je ne sais pas, dit-il, comment je pense. » Mais je sais que je n'ai jamais pensé qu'à l'occasion de mes sens. Qu'il y ait des substances immatérielles et intelligentes, c'est de quoi je ne doute pas. Mais qu'il soit impossible à Dieu de communiquer la pensée à la matière, c'est de quoi je doute fort. Je révère la puissance éternelle. Il ne m'appartient pas de la borner. Je n'affirme rien. Je me contente de croire qu'il y a plus de choses possibles qu'on ne pense. L'animal de Sirius sourit. Il ne trouva pas celui-là le moins sage. Et le nain de Saturne aurait embrassé le sectateur de Locke sans l'extrême disproportion. Mais il y avait là, par malheur, un petit animalcule en bonnet carré qui coupa la parole à tous les animalcules philosophes. Il dit qu'il savait tout le secret, que tout cela se trouvait dans la somme de saint Thomas. Il regarda de haut en bas les deux habitants célestes. Il leur soutint que leur personne, leur monde, leur soleil, leurs étoiles, tout était fait uniquement pour l'homme. À ce discours, nos deux voyageurs se laissèrent aller l'un sur l'autre en étouffant de ce rire inextinguible qui, selon Homère, est le partage des dieux. Leurs épaules et leurs ventres allaient et venaient, et dans ces convulsions, le vaisseau que le Syrien avait sur son ongle tomba dans une poche de la culotte du Saturnien. Ces deux bonnes gens le cherchèrent longtemps. Enfin, ils retrouvèrent l'équipage et le rajustèrent fort proprement. Le Syrien reprit les petites mythes. Il leur parla encore avec beaucoup de bonté, quoiqu'il fût un peu fâché dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits eussent un orgueil presque infiniment grand. Il leur promit de leur faire un beau livre de philosophie écrit fort menu pour leur usage, et que dans ce livre, ils verraient le bout des choses. Effectivement, il leur donna ce volume avant son départ. On le porta à Paris, à l'Académie des sciences. Mais quand le vieux secrétaire l'eut ouvert, il ne vit rien qu'un livre tout blanc. « Ah, dit-il, je m'en étais bien douté.